Seb, comment vas-tu?
Ça va très bien, Émile. Car on part en road trip et on amène notre cabaret des curiosités du web dans plusieurs villes du Québec au cours des prochains mois. Dans ces shows live, on explore de drôles d'histoires qui parfois nous font rire et parfois nous terrorisent. Les histoires changent à chaque show.
Le tout débute à Gatineau le 27 avril dans le cadre du Festival Transistor. Après, on se retrouve à Shawinigan le 13 juin au Wabasso avec nos amis de Côté Sombre. Et le 11 juillet, on se retrouve à Longueuil dans le cadre du Comic Fest à la salle Fanplast. Les billets sont en vente pour tous ces shows-là et d'autres dates risquent de s'ajouter sous peu, donc restez à l'affût.
Rendez-vous au distorsionpodcast.com pour connaître toutes nos dates et vous procurer des billets. Si vous souhaitez que Distorsion passe faire un tour dans votre région, écrivez-nous. On a vraiment hâte d'aller à votre rencontre.
De retour à votre programme principal.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion. Un podcast sur...
But what emerges is a portrait of a young teen killer, his mindset during the murder, his odd lack of real emotion, and what led him, along with accomplice Cruz Wellwood, to bind, beat, and brutalize Kimberly Proctor.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Les traces que nous laissons en ligne sont omniprésentes, d'une conversation sur Facebook jusqu'aux discussions au sein des jeux vidéo les plus populaires.
C'est ce qu'ont appris à leurs dépens deux adolescents de la Colombie-Britannique qui ont brutalement assassiné Kimberly Proctor, leur amie de classe.
Alors qu'elle faisait confiance à ses amis, Kim a été attirée dans un piège meurtrier digne d'un véritable film d'horreur.
Dans cet épisode, nous analyserons ce tragique événement en suivant les traces numériques laissées par ces adolescents au fil des jours précédant le drame.
Bonsoir Émile Gauthier, comment ça va?
Ça va très bien à soir Seb, parce que tu nous as déniché une histoire tragique, mais une histoire assez passionnante, surtout pour un sujet de distorsion. Je dis Seb parce que généralement, on a une petite idée des sujets qu'on aime bien lorsqu'on brainstorm sur des épisodes à venir. Ouais. Et puis, généralement, on sait un peu, ah oui, c'est le moment de faire John McAfee ou ah oui, Emma Philippoff, let's go, on le fait maintenant. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment plus un sujet que Seb nous a retrouvé dans les bas-fonds d'Internet. Ouais. C'est une histoire tragique, une histoire canadienne aussi, cette jeune adolescente Kimberly Proctor de la Colombie-Britannique qui a été brutalement assassinée. C'est de la sextorsion d'une certaine façon.
Ah, 100%, elle a été manipulée par des amis en fait qui l'ont amenée vers, vous allez voir là, dans l'épisode, là. C'est un cas qui est directement dans notre ligne en fait, c'est des meurtres puis c'est lié à, puis un meurtre puis qui est lié à une enquête qui est totalement nourrie par le numérique. Puis qui a permis de résoudre l'énigme complètement par les traces que les ados ont laissées sur leur passage, là, sans tout en étant naïf et sans jamais vraiment penser à ça.
Ça touche aussi toutes les communications qu'on a en ligne, les chats, les réseaux de discussion, Facebook, même aussi ce qu'on retrouve dans les jeux vidéo. Dans ce cas-ci, dans le cas de Kimberly Proctor, elle était une gamers, donc une joueuse de World of Warcraft, et il y a eu des échanges là-dessus. On a tenté de l'attirer, de l'embobiner dans un piège, et malheureusement, elle est tombée dans le piège et elle en a été une victime tragique. C'est quand même assez triste. C'est arrivé récemment, je crois, Seb.
2010, fin septembre 2010 environ.
Mm-hmm. Et puis, c'est toujours touchant parce qu'on se dit, Kimberly, justement, c'est une fille qui était un peu différente. Mm. Elle aimait un peu, là, justement, la culture geek, la culture gamer. Ça aurait pu être une auditrice de distorsion, on ne sait jamais. Oui. Comment dire, elle a voulu bien faire, mais elle s'est faite amener là, dans un piège et c'est assez tragique. Mais nous, à Distorsion, vous allez voir, on va focusser beaucoup sur justement les traces laissées en ligne, l'enquête qui a eu lieu justement en analysant les messages textes et toutes les communications que ces ados-là ont eues au fil du temps. Donc, ça devrait être assez passionnant. Qu'est-ce qu'on a à boire ce soir, Seb?
Oui, on a la bière qui nous a été offerte, en fait, la tournée de bière de cette semaine qui nous a été offerte par Olivier. Donc, merci Olivier de nous offrir une bonne bière de l'Ontario. Encore cette semaine, on plug une bière canadienne qui est la Upside de la brasserie Wellington qui est située à Guelph. C'est une IPA, on est de retour aux sources. 6,8% d'alcool avec un IBU de 58 pour ceux que ça intéresse. C'est une très bonne IPA. Elle est pas exceptionnelle, mais elle est très bonne. Elle a pas beaucoup d'amertume malgré son IBU et elle a beaucoup d'explosions fruitées. Là,
oui,
de
c'est
citron,
vrai.
Citron, pamplemousse.
Donc, très rafraîchissante.
Elle est très rafraîchissante. Donc, excellente bière qu'on vous recommande. Et merci à toi, Olivier.
Si vous voulez faire comme Olivier, puis encourager le show, encourager Distorsion, puis nous faire boire des bonnes bières, vous pouvez d'ailleurs nous suggérer des bières de votre région. Et puis nous, ça va nous faire un plaisir de tenter de les trouver. À part si vous nous dites que vous nous suggérez de la Oval et qu'il faut se lever à 5 heures du matin, puis faire la file pendant 3 heures dans un dépanneur en Gaspésie. On l'a déjà fait, mais ça veut pas dire qu'on va le refaire à tous les week-ends. Donc, petite parenthèse, parce qu'il y a des auditeurs qui nous ont envoyé des photos là, de deux qui ont réussi à avoir de la ovale dans des dépanneurs. Donc, bravo à vous. Mais si vous voulez justement nous faire une tournée de bière, nous payer une tournée de bière, vous pouvez le faire au distorsionpodcast.com à l'onglet tournée de bière. Vous choisissez le montant que vous voulez nous offrir et puis dans les commentaires de PayPal, vous pouvez nous suggérer une bière de votre région.
Ben, en passant, on a un auditeur de la Nouvelle-Calédonie qui nous écoute. Notre outil de statistique nous a mentionné ça. Donc, on a un super auditeur de la Nouvelle-Calédonie, donc sûrement un francophone.
Salut à toi.
En visite, oui. Et un shout-out d'une review 5 étoiles sur Apple Podcasts qui nous vient de Tricalcic du Canada. Elle nous dit « Wow, ce podcast est tellement excellent. Merci ».
Merci à toi, Tricalcic. On t'aime.
Oui. Donc, voilà. Ah oui, si vous voulez nous rejoindre, et en particulier rejoindre le groupe sur Facebook pour discuter avec nous de différents sujets, des enquêtes et de nous proposer toutes sortes de discussions, n'hésitez pas à vous joindre. On commence à être une bonne communauté. C'est super intéressant. Donc, vous allez sur Facebook, soit à partir de notre page Facebook, vous allez voir dans le haut, il y a un carré assez simple qui donne un chemin vers le groupe, vous nous demandez une petite demande et on vous approuve. Donc voilà, et pour sur la page Facebook, donc facebook.com/distorsionpodcast, sur Instagram, instagram.com/distorsionpodcast aussi, sur Twitter, twitter.com/distorsionpod. Est-ce que j'en oublie un, Émile?
Non, je pense que tout est nommé. Je pense qu'on a fait le tour de tout ça, puis ouais. On a bien hâte de se plonger dans l'histoire de Kim Proctor. Seb, tu nous dis go.
Go, go, go.
Un soir de mars 2010, à l'heure du souper, Cruz Wellwood a envoyé un message à Kim Proctor. « Hey, je pense que tu gardes hein, ce soir. As-tu fini plus tôt? » Cruz est en fait un ado de 16 ans. Il avait les cheveux châtains, les yeux un peu croches. Il vivait dans un bungalow avec sa mère sur la Happy Valley Road, qui était une rue assez verdoyante dans la ville de Langford, en Colombie-Britannique.
On a souvent des histoires de Colombie-Britannique ce temps-ci, hein?
Oui, il se passe beaucoup de choses dans l'Ouest canadien, c'est vrai ce que tu dis.
Mm-hmm.
Ce soir-là, comme tant d'autres, il traînait avec son meilleur ami, Cameron Moffat, qui était de style gothique, qui avait 17 ans. Mais comme beaucoup d'enfants de son âge, en fait, Cruz, il passait autant de temps avec ses amis en ligne qu'il faisait en personne. Bon, on le sait, hein, les jeunes, maintenant, ben les jeunes. C'est plus... C'est rendu comme ça depuis une vingtaine d'années, donc il aime bien passer beaucoup de temps en ligne. Quand il parlait pas justement à ses amis en ligne, il jouait à World of Warcraft, comme on vous disait dans l'intro. Tout le monde connaît un peu ce jeu de rôle en ligne là, qui est un succès mondial et qui est encore joué
oui,
par des millions de personnes. C'est
sans doute un des plus grands jeux là, de ouais. Blizzard, la compagnie ouais. de jeux vidéo spécialisée là, en MMO, en ouais. fait en Massive Multiplayer Online Games. Mm-hmm. Et puis c'est un peu, c'est des jeux qu'on décrit un peu comme RPG, donc des jeux où on va faire évoluer un personnage ouais. avec... Des quantités incroyables d'objets divers et d'habilités diverses. Et le jeu roule depuis vraiment longtemps, en fait, avec des updates qui arrivent à chaque année, chaque deux ans. Et il y a encore une communauté qui est hyper active là-dessus. Donc, c'est assez phénoménal ce que Blizzard ont créé avec ce jeu-là.
Ah, vraiment, c'est une de leurs vaches à lait. J'ai pas les chiffres, mais c'est incroyable ce qu'ils génèrent encore aujourd'hui avec ça. On revient à notre histoire, en fait, et ils discutaient surtout aussi beaucoup sur le réseau MSN de Microsoft. Maintenant, c'est pratiquement inexistant, si je ne me trompe pas. Je ne connais plus personne qui chatte là-dessus. Ça a été
En 2010, c'était plus tellement utilisé. Je pense que là-dessus, peut-être qu'elle est là-dessus justement pour avoir un peu moins de visibilité que ce qu'on a sur Facebook.
Ah, mais t'as pas tort, parce que moi-même, quand je faisais la recherche sur le sujet, j'étais là, MSN 2010, il me semble qu'en 2010, j'utilisais plus MSN. Donc, moi aussi, ça m'a créé un peu ce glitch-là. Je comprenais pas, en fait. J'avais l'impression quasiment que c'était un anachronisme, mais ce qui n'était pas le cas. Quand Cruz a texté Kim, en fait, pour voir si elle avait terminé son gardiennage, aucune réponse n'est venue de sa part. Mais il n'en attendait pas une. Le message instantané était une couverture. Cruz savait vraiment que Kim ne s'était jamais rendue à son travail. Elle était là, dans sa maison, avec lui et Cameron, attachée, battue, violée, et le lendemain matin, enfermée dans son congélateur, morte.
Oh!
Comment les choses en sont en arrivées là?
On va revenir un peu sur l'histoire un peu de Kim Proctor, puis de l'histoire et la vie et l'entourage de ces jeunes-là de la municipalité de Langford, de voir un peu qu'est-ce qui les habite. C'est des jeunes d'environ de 16 à 18 ans, je dirais.
Exactement.
Donc, fin adolescence, début adulte. Kimberly, elle, on va se concentrer un petit peu plus sur elle. Elle est née le 1er janvier 1992, donc vraiment la première année, le premier jour de cette année-là, carrément. Ses parents sont dans la classe moyenne. Lucy est une gérante chez Walmart et Fred, son père, est un mécanicien spécialisé en moteurs diesel. Ils l'appelaient Baby New Year, justement en raison du fait qu'elle est née le premier jour de l'année, donc au New Year's Eve. Ou ils pouvaient aussi l'appeler selon son surnom Kimmy. Kim, elle avait une passion pour les animaux. Elle pouvait même élever chez elle des petits animaux là, un peu que certains vont peut-être trouver creepy là, comme des petits lézards, mais aussi des petits mammifères comme des lapins ou des hamsters ou même des souris. Donc elle avait ce hobby et cette passion pour les animaux. Elle aimait aussi beaucoup les chats et lorsqu'elle était jeune, en fait, elle portait le même jusqu'à l'adolescence, elle portait des genres de petites oreilles de chat là dans ses cheveux. Puis elle allait à l'école justement avec ses oreilles-là. De ce côté-là, par contre, c'était moins bien reçu, puis elle s'est fait intimider quand même à maintes reprises à cause de ses oreilles-là, en fait. Elle a un côté sérieux et nerd aussi, Kim. Et à cette époque-là, on sait qu'à l'adolescence, en fait, maintenant, quand on devient adulte, c'est la revenge of the nerds. Donc, ceux qui étaient nerds au secondaire et tout ça, maintenant, sont les superstars et sont les gens qui ont... les gens qui dominent le monde. Donc,
salut à toutes mes bouléeurs de mon école secondaire.
Oui, et pardon à tous les nerds que j'ai bouliés à mon école secondaire. Mais en fait, à l'époque, quand t'es au secondaire, c'est quand même pas tout le temps bien perçu d'être nerd là, à côté des groupes plus sportifs ou des gangs cool.
Ou même
ça.
D'être un petit peu différent. Tu sais, dans le fond, elle avait un petit côté nerd sérieux. Mais, tu sais, je veux dire, porter des petites lunettes, tu sais, pas des lunettes, mais l'accessoire dans ses cheveux de
chat. Les oreilles de chat.
C'est sûr que c'est pas commun, mais c'est ça aussi qui fait que les adolescents, je trouve qu'ils sont cruels.
Ah oui.
C'est dès qu'il y a une légère différence ou quoi que ce soit, on s'attaque à cette différence-là. Pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, en plus, on la vénère, la différence, d'une certaine mesure. Tu sais, on dit aux gens qu'ils sont tous différents puis qu'il faut focusser sur ces différences et comme force au lieu d'essayer toujours se comparer à ce que les autres sont. Mais bref, continuons.
Et Distorsion est un refuge pour les gens différents, en passant. Nous, on accueille tout le monde dans notre communauté. Donc, Kim, justement, elle avait ce côté nerd, ce côté un peu geek aussi. Et puis, elle était victime d'intimidation là, presque tout le long de sa vie, selon sa mère qui a expliqué ça aux policiers un peu plus tard. Elle avait aussi un trouble de déficit d'attention. Kim, qu'elle n'a pas aidé, donc elle était constamment distraite, elle cherchait à s'évader, donc à l'école, elle était pas tout à fait tout le temps concentrée, si on veut. Elle pouvait aussi paniquer lorsqu'elle était à travers la foule, donc elle aimait pas trop ça, justement, se retrouver à l'école où elle était intimidée, donc elle avait une relation un peu difficile avec l'école. C'est pas un endroit où elle était totalement à l'aise. Ses parents ont essayé aussi de la médicamenter, mais cela n'a fait que la rendre plus zombie, selon sa mère. En fait, c'est souvent ça aussi. Hein?
Oui.
Moi, je me rappelle parfois, lorsque j'étais à l'école secondaire, au lycée, pour nos auditeurs européens, oui. On le sait, moi, j'ai la chance de pas avoir de troubles d'hyperactivité, mais c'est quand même assez commun hein, dans les gens de notre génération, puis des plus jeunes aussi, dans les millennials, il y a énormément de troubles d'hyperactivité. Et c'est vrai, dans les amis que j'avais à l'époque, qui souffraient d'hyperactivité, qui se faisaient prescrire plein de trucs là à l'époque, souvent ça les rendait vraiment zombies ou amorphes.
Non, c'est clair, puis l'école est même pas adaptée de toute façon pour gérer ces gens-là, mais bon.
Finalement, en fait, Kimberly, ils l'ont transféré à une école qui était plus adaptée, la Pacific Secondary, pour obtenir plus d'attention personnalisée pour répondre à ses besoins. Donc ses parents ont été à l'écoute de ses problèmes qu'elle avait de déficit d'attention, puis ils l'ont changé d'école. L'école spécialisée en question, c'est une école qui a attiré plusieurs enfants à problème dans la région de Langford, qui est Langford, pour vous donner une idée, c'est un peu une banlieue dortoir là, de la région de Victoria, donc c'est un peu un Beauport là,
ou un Laval
de la région de Victoria. Et c'est le cas de Cruz Wellwood, le jeune dont tu nous as parlé, Seb, en introduction. Cruz, lui, c'était rien de moins que le fils d'un tueur. En 2001, en fait, le père de Cruz, suite à son implication dans une affaire d'agression sexuelle, Robert Raymond Deswan, a agressé sexuellement et assassiné une jeune fille de 16 ans, donc de l'âge de son fils. Deswan a été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Plus tard, Cruz a dit qu'il comprenait clairement ce que son père avait fait, mais il en parlait très rarement. Cruz a été impliqué dans une variété d'incidents criminels, allant de justement fumer un joint derrière l'école secondaire jusqu'à voler de l'argent dans des boîtes aux lettres. Et à cet âge-là, il avait seulement 16 ans. Donc, dans toute la foulée de cet événement tragique qui le lie à Kim Proctor, Cruz a eu vraiment une enfance difficile avec un père absent, un père qui n'a pas vraiment été un modèle, si on veut. Et en fait, sans vouloir rien vous divulgâcher, Cruz va un peu marcher dans les pas de son père.
Exact.
Cruz, à l'école, il s'est lié d'amitié avec un certain Cameron, qui est un collègue de classe. Suite à leur mépris mutuel d'un enseignant de leur classe d'art en cinquième année. Alors que Cruz est un ado plutôt intelligent, mais très nerveux, Cameron Moffat, lui, Moffat étant son nom de famille, c'était un étudiant un peu plus lent, qui lui souffrait de TDAH, donc de troubles de
déficit de l'attention. Comme Kimberly, en fait, oui.
Exactement, tout à fait. Un rapport psychiatrique a même révélé plus tard que Cameron avait été abusé sexuellement à l'âge de 4 ans. Et bien qu'il ne l'ait pas personnellement révélé publiquement, par contre, étant enfant, Cameron a commencé à sauter par la fenêtre de sa chambre la nuit jusqu'à ce qu'elle soit barrée. Donc, il avait vraiment un comportement assez hyperactif, voire même dangereux. Il n'était pas du tout réceptif aux séances de psychothérapie ni aux médicaments. Donc, il s'est tourné un peu vers la rébellion. Et il a commencé à vandaliser sa propre maison, puis à s'automutiler pour soulager le stress.
Ouais, c'est un comportement classique.
Oui, exactement. C'est un comportement classique. Vous en parlerez à des gens, là, des professeurs, des gens que vous connaissez qui travaillent dans les écoles secondaires, même primaires.
Oui.
L'automutilation est quand même un problème en classe.
Ah oui, vraiment. Puis c'est la plupart des victimes d'abus sexuels ont cette tendance-là à s'automutiler. C'est vraiment c'est pour se punir, souvent ce qu'ils disent, ou évacuer le stress, justement, mais c'est vraiment dans un mode de punition qui s'inflige cette douleur-là. Puis j'ai l'impression qu'il y a aussi un côté biochimique aussi dans le corps, que ça relâche une certaine hormone qui détend étrangement, là, même si la douleur... j'ai l'impression que le cerveau fait ça aussi pour pas qu'on ait trop mal. Donc, c'est un mélange de ça qui incite justement ce comportement-là, entre autres. Là.
Ça peut même devenir addictif. D'une certaine
façon. Oui, il y a des gens, c'est incroyable. Tu peux voir des bras complets. C'est extrêmement triste quand les gens vont vers là. Donc, si vous voyez des graphiques sur vos bras de vos enfants, questionnez-vous, parce que des fois, on le sait pas trop, parce que ça commence par certains juste petits signes, petites lignes par-ci, par-là. Puis c'est important que le parent le détecte, parce que des fois, on n'est pas conscient nécessairement du stress que notre enfant peut vivre. Puis c'est pas... il y a des enfants de bonne famille aussi hein, qui peuvent subir ça. C'est la petite parenthèse de Dr. Seb.
Merci, Dr. Seb. Mais Cameron, de son côté, il devenait de plus en plus menaçant et dangereux à l'école. Apparemment, qu'il aurait même apporté un couteau en classe. Donc, ça allait plus loin que la simple automutilation et tout ça. On avait même des signes qui laissaient présager qu'il pourrait avoir un comportement violent.
Envers les autres.
Hein. Absolument.
Cruz était le seul enfant qui semblait comprendre Cameron. Cruz citant un peu plus tard, « Il pourrait aussi bien être mon frère. » Ils ont séché l'école ensemble, ils ont fumé du pot, ils ont joué à WoW, qui est World of Warcraft. Ils ont surfé aussi sur des sites pornographiques ensemble. Ça, je dois vous avouer que je trouve ça quand même un peu étrange. J'ai jamais fait ça avec mes amis. Là.
C'est ben, moi non plus, c'est plutôt quelque chose que j'aurais tendance à garder intime, mais je pense que d'autres aiment bien faire ça en gang.
Oui, non, j'imagine. Quand t'es plus jeune, peut-être que t'as pas les mêmes limites, si on veut. Mais bon, malgré leur comportement qui est quand même assez inadéquat fréquemment, ils n'ont jamais été perçus par une menace par qui que ce soit, par les autorités ou quoi que ce soit. En février 2009, Cruz a publié sur son blog WordPress un article qui s'intitulait « Les signes précoces d'un tueur en série ». En fait, il énumérait un peu les traits communs des tueurs en série là, qui incluent la maltraitance des animaux, la fascination pour le feu, l'abandon par un père, on le sait généralement, je pense que c'est quasiment 95% des gens en prison qui ont commis des meurtres, qui ont un père absent, et de plus un intérêt prononcé pour la pornographie sadomasochiste. Et lui, il cite dans l'article justement, « Le truc que je trouve bizarre, c'est que je rencontre les 14 critères d'un tueur en série qui a blogué. » Et puis là, il répond pas, là, il continue à écrire dans son article. Apparemment, bien que je réponde à tous les critères, il est peu probable que je sois, que le sujet, donc moi-même, soit un tueur en série. Je suppose que seul le temps nous le dira.
Un petit drapeau rouge ici, là.
Non, effectivement. Parce qu'on s'en fâche pas dans les nuances, hein, à cet âge-là. Tout est blanc ou noir. Là.
J'ai l'article du Dr. Phil dont il fait référence, puis c'est peut-être intéressant qu'on le regarde tranquillement. En fait, c'est justement les 14 traits, là, les 14 signes précoces de tueurs en série. C'est à prendre avec un grain de sel, évidemment. Vous allez voir, c'est quand même des grandes généralités. Apparemment que 90% des tueurs en série sont de sexe mâle. Apparemment que c'est des gens qui ont des quotients intellectuels quand même élevés, donc supérieurs à la moyenne. C'est par contre des gens qui vont être plutôt faibles à l'école, qui vont avoir de la difficulté à garder leur emploi, par exemple. Et même, c'est des gens qui vont parfois, malgré leur quotient intellectuel quand même élevé, vont se retrouver avec des emplois plus d'ouvriers, par exemple. Ils vont... venir justement de familles instables où vraiment le climat familial n'est pas idéal, évidemment, on s'en doute bien. C'est souvent des gens qui ont été abandonnés par leur père et qui ont été élevés par des mères dominantes.
Okay,
donc quand même un trait intéressant. Ouais. Encore une fois, c'est des grandes généralités, vous allez me dire. Souvent, c'est des gens dont la famille a un passé criminel ou un passé aussi psychiatrique ou alcoolique. C'est des gens qui vont détester généralement leurs propres parents. C'est des gens qui ont été généralement abusés justement étant plus jeunes, soit psychologiquement, physiquement ou sexuellement. Plusieurs tueurs en série auraient passé beaucoup de temps dans des institutions pour enfants, comme justement des familles d'accueil, des maisons d'accueil, des prisons pour jeunes, bon, on s'en doute bien. C'est des gens aussi qui vont avoir généralement des forts taux de suicide. C'est des gens qui vont tenter à maintes reprises de commettre des suicides. Même à leur plus jeune âge, certains vont être intéressés dans plusieurs formes de fétichisme, de voyeurisme et comme tu l'as dit, là, de sadomasochisme et de pornographie qui va être en lien avec toutes ces déviances-là, si on veut. Plus de 60% des tueurs en série vont mouiller leur lit jusqu'au-delà de l'âge de 12 ans.
Oui.
Donc, ce serait un autre trait là, intéressant dans ces 14 traits-là. Je suis rendu au 13e. Apparemment que plusieurs tueurs en série seraient fascinés par démarrer des feux. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, allumer des pyromanes.
Des pyromanes, exactement. Et le 14e trait, ce serait des gens qui seraient souvent impliqués dans des activités sadiques, comme par exemple torturer des petits animaux.
Oui. Ça, c'est assez classique hein, dans beaucoup de cas. Oui. Justement, on l'entend. Là, ils torturaient ces petits animaux. Justement, Lucas Rocco Magnotta, entre autres. On retourne en 2009. Kim, Cruz et Cameron, en fait, étaient des amis à l'école. Ils faisaient partie du même petit groupe au Pacific Secondary, l'école spécialisée pour les élèves en difficulté.
Mm-hmm.
Et on juste une parenthèse, dans le fond, deux des trois là-dedans, c'est quand même des enfants avec des déficits d'attention. Les adolescents de Langford, ils jouissaient quand même d'une indépendance. Je pense que c'est une école justement pour les TDAH qui n'a pas des cadres un petit peu moins... Ben, d'après moi, ça devait être sévère, mais les cadres semblaient un petit peu plus lousses sur les heures.
Les horaires.
Exactement. Donc, ils se rendaient souvent au centre commercial l'après-midi en autobus. Puis en Colombie-Britannique, ils ont les autobus à double étage, les autobus impériaux.
Les double-decker.
Oui, c'est ça. Puis je trouve ça drôle. Je me demande pourquoi qu'on n'a pas ça à Montréal. Bref. Ils fumaient quelques joints... Il traînait sur le bord du sentier du Galloping Goose, qu'on vous reviendra plus tard, là, qui est une rail de train aussi. Mm-hmm. La nuit, il continuait de faire la fête en ligne cette fois-ci parce que, bon, il faut rentrer à la maison. J'imagine qu'il y avait un certain couvre-feu, mais il continuait à chatter ensemble et à flirter jusqu'aux petites heures du matin online. Pendant un moment, en fait, Kim, elle a daté Zach. Zach, c'est un autre membre du groupe qui était un ami proche de Cruz. Mais comme beaucoup d'histoires d'amour là, au secondaire ou au lycée là, pour nos amis, là, l'histoire a fut quand même assez de courte durée. Zach a laissé Kim après quelques mois. Par contre, Kim a été vraiment démolie par la rupture. Elle a trouvé ça extrêmement difficile. Comme beaucoup de gens, dans le fond, on cherche du réconfort auprès de ses amis.
On le sait, au secondaire, les ruptures, c'est l'événement le plus dramatique de notre vie.
C'est la fin du monde, là. Je sais pas si tu te rappelles de ta première rupture.
Oh, oui.
Hey, mon Dieu, moi, j'écoutais des chansons tristes en boucle.
Puis, ah oui,
t'as l'impression que la vie se finit.
Absolument.
C'est drôle, mais c'est une étape quand même qui est importante aussi dans la vie. Puis après ça, tu te rends compte que la vie continue.
On est à fleur de peau.
Hein. Oui, vraiment. On est plus fragile, c'est normal. Donc, Kim est allée justement rechercher du réconfort auprès de Cameron et Cruz. Il se confie souvent en ligne parce qu'on le sait, généralement, ça, on a moins de filtres. C'est beaucoup plus facile d'avoir des discussions profondes, encore plus à cet âge-là. Derrière un écran, on a moins... Il y a vraiment une barrière versus... parce que c'est vrai, même en tant qu'adulte, je trouve que c'est vrai qu'on a une facilité, une ouverture beaucoup plus grande souvent à jaser en ligne qu'en personne. Il y a quelque chose dans le contact non physique qui ouvre nos voix et nos pensées sans filtre.
On va avoir plus tendance à se confier à des inconnus, à des étrangers, par exemple.
Oui, ça c'est vrai ce que tu dis souvent, puis bon, on n'élaborera pas, mais oui, c'est effectivement un comportement, puis justement, des gens se font prendre aussi en ligne par des gens qui ont une bonne écoute ou que justement ils se confient à quelqu'un puis la personne peut profiter un peu de la vulnérabilité de la personne et l'exploiter par la suite. Pendant ces discussions, Cameron a avoué à Kim que lui avait un œil sur elle, en fait, qu'il l'aimait lui aussi. Puis là, il l'a complimenté sur sa beauté en lui disant « Il n'y a pas vraiment, traduction, là, « There are many beautiful things I've seen, but I must say you are one of them. Mm-hmm. » Et elle a répondu « Ah, thanks. » Mais Kim était vraiment plus intéressée par Cruz, par exemple, et non par Cameron. Cruz et Kim étaient devenus vraiment proches durant la séparation douloureuse de Zach. Elle envoyait souvent des textos. Et Cruz était un proche de Zach aussi. Donc, il était un peu, pas l'entremetteur, mais il était un petit peu entre les deux. Selon moi, il devait avoir toujours les deux versions de l'une et l'autre.
Là. Il y avait un petit triangle amoureux là-dedans. Là.
Oui.
Faut pas l'oublier.
Exact.
Peut-être même un carré amoureux, là, si on inclut Zach, parce que t'as Kim qui, pendant un moment très bref, a fréquenté Zach. Et puis, mais Zach est quand même dans la gang, il est quand même dans le même groupe d'étudiants. Et puis, par la suite, justement, Zach a laissé Kim. Et là, les deux autres, Cameron et Cruz, les deux vont commencer tranquillement à faire de l'œil à Kim. Mais ça va devenir un peu malsain parce que non seulement ils vont flirter avec et justement, ils vont voir que Kim a une certaine ouverture, je pourrais dire, envers Cruz.
Oui.
Mais malgré tout, Cruz et Cameron vont s'en parler ouvertement. C'est vraiment malsain, là.
Justement, Kim, elle a mentionné à une de ses amies qui s'appelait Samantha que dans le fond, Cruz était plutôt un moyen, disons son attirance et vers Cruz était quand même juste un moyen, pas un gars transitoire, là, mais quelque chose qui allait un peu pallier sa douleur de perdre Zach. Là. Pour elle, elle avait l'impression que...
Un rebond,
exactement. Puis vu que c'était son ami, puis elle pouvait se confier, puis Cruz en profitait un peu, puis c'était une bonne oreille. Donc pour elle, mais c'était pas quelque chose de sérieux. Elle voyait vraiment comme ça. Puis son ami qu'elle aurait dû écouter, en fait, elle lui a dit « Assure-toi que si tu ne l'aimes pas, ne pas lui donner de faux espoirs. » Puis ça, c'est une sage leçon, en fait. C'est une phrase, en fait, qui semble assez anodine, mais qu'elle va prendre vraiment un tout autre sens un peu plus tard. Au cours d'une conversation, en fait, Cruz a dit à Kim qu'il se sentait plus ouvert avec elle qu'avec les autres. Il a dit « Je peux pas te mentir à toi, ça me ferait sentir trop coupable. » Donc, il est pas capable. Donc, il sentirait une culpabilité si lui mentait. Il dit « Normalement, j'en suis capable, mais tu me fais sentir tellement bien, honnête, pour une raison que j'ignore. » Kim a répondu avec un rire et un émoticône de confusion. En fait, le 2.S là, qui fait la bouche un peu distorsionnée. Puis elle écrit « Merci, je suppose. » Donc, c'est un peu, ça aussi, c'est une drôle de réponse. On voit qu'elle n'est pas...
pas 100% à l'aise avec les avances de Cruz.
Non, puis elle n'est pas directe dans son refus, mais tu vois qu'elle n'ouvre pas de porte tant que ça, si on peut en convenir, là. En ligne, ils ont commencé à partager leurs secrets et leurs insécurités, ce qu'ils ne faisaient pas vraiment en personne. Kim a dit à Cruz qu'elle se trouvait petite et grassouillette, mais Cruz tentait toujours de la rassurer et lui disait « Tu es belle comme tu es ». Kim un jour a plaisanté sur un vieux surnom de Cruz que Cruz avait à l'école, parce qu'ils ont fréquenté l'école longtemps ensemble, qui était « Spaz ». Spaz, en fait, pour votre information, ça veut dire quelqu'un qui est
un peu fou.
Un peu fou, exactement, qui a un retard mental ou qui est extrêmement over-energetic, qui a trop d'énergie, qui bouge tout le temps. Et il a vraiment pas aimé ça. Il disait que pour lui, ça, c'était une blessure qui était vraiment profonde, plus qu'elle ne pensait, qu'elle devrait pas rire de ça. C'était pas un surnom. Pour lui, c'était une insulte. Il dit, j'avais d'énormes problèmes avec les gens. Ça n'a jamais été quelqu'un de très sociable qui était capable de bien communiquer. J'ai toujours eu de la misère à fonctionner... Il dit, puis j'ai encore de la misère à fonctionner en société aujourd'hui, mais maintenant, je sais comment les gens fonctionnent et je sais quoi faire pour les tiquer, là, les faire, justement, les faire eux-mêmes, les pas les boulier.
Les provoquer.
Les provoquer, exactement. C'est assez facile de porter un masque et de faire semblant. Quand Cruz a écrit « Être quelqu'un de violent et explosif », elle a répondu par « lol ». Un jour, il lui a écrit « Tu es trop bonne, Kim. Tu fais trop confiance aux gens. »
Peut-être effectivement que c'était des signes avant-coureurs de ce qui allait se passer. On a parlé beaucoup de leur relation en ligne, de vraiment les discussions qu'ils entretenaient sur Facebook Messenger, via texto ou même via World of Warcraft. Mais ces gens-là, hors ligne, en fait, dans la vraie vie, il y avait une attitude complètement différente envers eux-mêmes. C'était des gens qui n'avaient pas tendance à se confier. Donc, lorsqu'ils étaient ensemble, c'était souvent des discussions qui étaient en superficie, qui n'allaient pas vraiment au fond des choses. Ils étaient plus à l'aise vraiment de se confier en ligne via les différents outils de communication. Hors ligne, par contre, les deux amis, Cameron et Cruz, eux, ils ont commencé à tourner tranquillement vers le côté noir de la force, si on veut. Souvent, ils étaient high, donc ils fumaient du pot ensemble, ils se défonçaient la gueule, et ils auraient apparemment expérimenté avec des boissons un peu étranges, avec du sang et des fluides corporels. Donc, je n'en sais pas plus. Ils ont commencé à s'intéresser non seulement à la culture geek et à la culture gothique, comme c'est le cas de plusieurs ados, là, à écouter du black metal et à s'habiller en noir et tout ça, mais eux, ils ont développé tranquillement une passion aussi vers l'occultisme là, et même un peu le satanisme. Donc cette passion-là s'est transformée en vraiment en objectif à atteindre et même en une forme de plan. Des amis ont même rapporté avoir entendu Cameron crier après les membres de sa famille à la maison et Cruz, qui vivait toujours seul avec sa mère, qui était résistant là, à toute supervision et à tout encadrement. Donc les deux jeunes vont se rebeller autant à l'école que dans leurs familles respectives. Et une pratique qu'ils vont commencer à faire, là, les deux amis, ça va être de visiter des sites pornographiques ensemble. Ils vont justement se réunir puis regarder des sites pornographiques, surtout sadiques. Puis dans leur fréquent clavardage, c'est là qu'ils ont commencé à fantasmer sur le viol et la soumission. Et c'est tranquillement à ce moment-là que vraiment leur idée là, de faire un plan va prendre forme. Donc c'est là que les choses vont un peu commencer, si on veut. Un jour, Kim discutait séparément entre eux, mais en même temps, donc avec les deux gars, mais dans des fenêtres différentes, en passant justement d'une fenêtre à l'autre. Et un soir, Cameron a commencé à lui envoyer des messages à caractère sexuel. Il l'a invité à une fête dans ses pantalons, comme il décrivait, et il lui a promis un lollipop, donc un genre de suçon rempli de crème. Kim va lui répondre « Oh my God » et elle va écrire à Cruz, donc dans une autre fenêtre, en lui expliquant tout ça, en lui disant que, justement, Cameron est en train de lui écrire et en lui expliquant l'histoire du lollipop. Et là, Cruz va lui répondre « Eh bien, justement, j'ai la même marque de lollipop que Cameron a avec moi. Et là, Kim va quand même être un peu mal à l'aise de ça, là, de voir que les deux lui font des avances comme ça via le chat. Elle va lui répondre « OK » avec deux points de suspension et avec son émoticône préféré, les moustaches de chat. Mais peut-être que là, c'était peut-être pas une bonne idée tout ça, là. Et par la suite, Cameron va lui répondre « You have death urine on you ». Donc, tu as l'urine de la mort sur toi. Donc, quand même une drôle de tournure dans les événements. Et il va lui réécrire encore en lui disant « Tu vas mourir ensuite ». Kim, à ce moment-là, va répondre par trois petits points. Donc, très mal à l'aise. Elle sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Et elle va lui répondre « Ho, what do you want ?» Donc, qu'est-ce que tu veux? Et Cruz, à ce moment-là, va lui demander « Qu'est-ce que tu fais demain? » Et elle va répondre « Rien d'autre que du babysitting à 15 heures. » Et là, vous me voyez venir tranquillement vers l'introduction de l'épisode d'aujourd'hui. Cruz va lui répondre « Je m'ennuie et je cherchais quelqu'un pour faire quelque chose aujourd'hui. Et je voulais aussi m'excuser. » Et là, Kim va vraiment avoir un petit peu plus d'attention. Soudainement, elle va dire « Oh! » Et Cruz va lui dire « J'ai quelque chose à te dire en personne sur le fiasco de l'histoire avec Zach. » Donc, on se rappelle que Kim avait fréquenté Zach pendant une brève période de temps. Et Kim va lui répondre « Tout ça est très soudain. Je n'ai pas le choix, mais de me demander pourquoi. Et je n'ai pas envie de parler à propos de Zach. » Et Cruz va lui répondre « Moi et Zach ne sommes plus aussi proches que nous l'étions, mais je sens que tu mérites une explication. » Et Cruz va lui répondre encore dans un autre texto. Il va lui dire « Ne t'en fais pas, ce ne sera pas trop long. » Et là, il va lui dire encore « C'est surtout à propos de pourquoi moi et Cameron et tout le monde étaient si méchants à propos de toi. » Et là, Kim va lui répondre en parlant d'elle-même à la troisième personne en lui disant « Peu importe ce qui est arrivé à Kim, tu ne mérites rien, ton chien est mort. » Ha ha ha. En lui disant par exemple que tu n'as aucune chance. Et là, Cruz va lui dire « C'est justement pourquoi je voulais qu'on se parle. » Kim va lui dire « Je dois dire que lorsque j'ai vu ton texto, j'étais sous le choc et je suis confuse. » Et là-dessus, Cruz va lui répondre « Justement, j'aimerais mieux que nous discutions en personne. Je peux te rencontrer demain avant ton babysitting et sinon nous pouvons s'en parler avec quelques bowls. » À ce moment-là, c'est quelques puffs de potes. Donc, Kim est d'accord, elle va lui répondre « Sure ». Et Kim a demandé à Cruz de l'appeler. Et à ce moment-là, Cruz a ajouté Cameron à l'appel secrètement, donc sans que Kim le sache, pour qu'il puisse entendre la discussion. Et pendant que Kim et Cruz parlaient, Cruz et Cameron, eux, de leur côté, s'envoyaient des messages séparément et se délectant à mesure que leur fantasme prenait vie. Donc, le but ici, on le sait pas encore, mais ce que Cruz et Cameron ont en tête, c'est d'attirer Kim en personne chez eux pour éventuellement mettre leur plan là, de site pornographique sadomasochiste à exécution. Donc, ça regarde mal tout ça et Kim est en train de tomber dans le panneau. Et à ce moment-là, en fait, c'est là que Cruz va écrire à Cameron, ou l'inverse, pardonnez-moi, « Je vais lui briser le nez, je vais lui enlever son anneau de nez et je vais le brûler. » Et là, Cruz va lui réécrire « Brûle sa peau ». Et là, Cameron va lui répondre « Pourquoi ne pas la garder attachée, mais en vie ?» Donc, un échange de textos quand même assez troublant.
Vraiment.
Ça, ce qu'on vous lit, c'est ce que justement les policiers ont trouvé.
Oui, oui.
Et ça n'a pas été très difficile pour eux de trouver toutes ces preuves-là. C'est assez incriminant. On voit carrément le plan prendre forme et la pauvre Kim d'être victime dans tout ça et de se laisser embarquer dans cette manipulation.
Ce matin-là, Kim était encore au lit quand sa mère l'embrassa et la salua avant d'aller travailler comme elle faisait à chaque matin. Elle ajouta qu'elle l'aimait beaucoup. Les deux avaient vraiment raison d'être heureux ce matin-là parce que la veille, Kim avait appris qu'elle avait assez de crédit enfin pour obtenir son diplôme d'études secondaires et qu'elle avait vraiment hâte de faire du bénévolat au centre local de réhabilitation des animaux sauvages, le Wild Ark. On se souviendra que Kim est une passionnée des animaux. Donc pour elle... On le sait, les enfants qui ont des difficultés scolaires, quand ils sont capables d'avoir un objectif tangible d'un métier ou d'un travail, souvent c'est très motivant pour eux d'atteindre leur objectif, puis elle a réussi à avoir ses crédits, donc c'était tout en son honneur. Ce jour-là, Kim, elle n'avait pas de cours, donc sa mère pensait qu'elle en profiterait pour faire la grasse matinée. Et pour Kim, en fait, le plan, c'était seulement que d'avoir du gardiennage en après-midi et de rentrer à la maison pour commencer à coudre sa robe de graduation, justement pour ce qu'on a mentionné plus tôt. Mais Kim avait une dernière chose à régler en premier. Après que sa mère soit partie, elle a enfilé son chandail à capuchon et elle s'est dirigée vers le terminus d'autobus de Langford. Vers 10h30, Kim est partie au terminus où Cruz et Cameron l'ont rencontré. Cameron venait d'acheter du carburant à camping, là, du gaz à camping, là, que les garçons utiliseraient plus tard pour mettre le feu au corps de Kim. Tous les trois discutèrent un moment, puis descendirent vers la petite maison brune de Happy Valley Road. Au petit matin, Cruz avait dit à Cameron qu'il utiliserait une phrase codée. « Je pense que je vais faire du KD, c'est du Kraft Dinner pour ceux qui ne le savent pas, quand il était prêt à attaquer. Peu de temps après être arrivé à la maison, les garçons ont frappé, donné des coups de pied et frappé Kim alors qu'il lui liait les mains et les chevilles. Cruz fourra une chaussette dans la bouche de Kim, qu'il enveloppa ensuite dans du ruban adhésif. Les deux ont violé et battu Kim pendant des heures jusqu'à ce qu'elle soit morte d'étouffement. Ils l'ont mutilé avec un couteau et rempli avec du matériel de taxidermie. Ils ont déplacé son corps ensuite dans le congélateur dans le garage de Cruz. »
Toute une scène de crime.
Incroyable. À un moment donné, peut-être pendant que Kim était encore en vie, Cruz s'assit devant son ordinateur et lui envoya un dernier message instantané. Son alibi, pensa-t-il, lui demandant si elle avait déjà fait son babysitting. Inévitablement, d'autres messages apparurent lorsque Cruz apparut en ligne. Il y a un de ses amis qui soupçonnait son père de boire de l'alcool à friction. L'ami de Cruz voulait des conseils, puis là, Cruz répondait pas. Il lui répondait « Dude! » Et ensuite « Speak! » Son ami, ça devait pas être dans les habitudes de Cruz de pas répondre assez rapidement à ses messages. 8 minutes plus tard, Cruz a répondu à son ami « Désolé, le congélateur sautillait. » Plus tard dans la soirée, Cameron envoyait un texto à une ex-petite amie qui l'encourageait à sortir de sa maison et d'aller le rejoindre chez Cruz. Elle n'est pas venue, cependant. Ça lui a sauvé la vie. Le lendemain matin...
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il a essayé d'en attirer une deuxième même.
Oui, oui, oui. Et ça a été confirmé, en fait, par après que si cette fille-là s'était rendue là, elle aurait subi à peu près le même sort que Kim.
Mm-hmm.
Donc, elle s'est sauvée la vie en n'y allant pas, si on peut, dire ça ainsi. Le lendemain matin, Cruz et Cameron ont mis le corps de Kim dans un sac de hockey et sont montés à bord d'un autobus en direction du sentier du Galloping Goose, là, un endroit où ce qui avait tendance à se tenir les trois ensemble. Une fois là, ils ont marché péniblement dans les bois, on s'entend, ils transportaient un corps, et sous un pont. Ils ont arrosé le sac de carburant qu'ils ont acheté tout à l'heure et l'ont allumé en feu.
Ici, on voit quelques faux pas criminels. Même si les deux gars prétendent être des potentiels tueurs en série et que même ils vont s'en vanter entre eux dans leur message, il y a des choses ici qui font pas tellement de sens, là. De un, même, vous savez, essayer de transporter un corps dans un sac de hockey, puis même dans l'autobus, ils l'ont fait, là, mais ce qu'on appelle un dead weight, là, vraiment le poids d'un cadavre, on dirait que c'est encore plus lourd quand les muscles sont relâchés,
Là,
donc c'est pas quelque chose qui est subtil à trimballer. Donc évidemment, ils ont été aperçus dans l'autobus avec ce sac de hockey-là qui avait de la difficulté à traîner eux-mêmes. En plus, une des façons les plus difficiles de disposer d'un corps, c'est d'essayer de le brûler soi-même. En fait, c'est faisable, mais ça demande un feu qui va être constamment entretenu, très, très chaud et très chaud pendant longtemps. Oui. Ça peut prendre jusqu'à 8 heures,
exact.
Étant donné toute la quantité d'eau que le corps humain contient. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment eux avec leur... je pense qu'il y avait une petite bouteille là, d'essence à briquet ou à barbecue pour faire du camping. C'est vraiment pas suffisant pour faire ça. Donc, on peut vous dire que, de un, ils sont allés planquer le corps dans ce lieu-là qui est très fréquenté par les jeunes du quartier, là, un peu les jeunes qui vont boire ou faire des graffitis. Et de deux, ils vont essayer de dissimuler le corps à cet endroit-là en le mettant en feu. Donc, comment dire, c'était destiné à foirer ce plan-là.
Non, effectivement. La mère de Kim a publié un message sur Facebook, elle aussi, parce qu'elle commençait à s'inquiéter. En fait, elle avait soupçonné quelque chose de louche au moment où elle avait appelé Kim jeudi après-midi, justement durant son babysitting. Et automatiquement, elle avait été dirigée vers la boîte vocale. On le sait, quand on tombe directement sur la boîte vocale, c'est que le téléphone est éteint. Ce qui était vraiment pas dans ses habitudes. C'est ce qu'elle a dit à la police. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Alors que la famille, la police, les amis commencent à rechercher Kim, parce que tout le monde est inquiet, Cameron et Cruz continuaient leur vie comme si de rien n'était. Après avoir jeté le corps de Kim, Cruz a passé le reste de la journée à la maison avec une autre fille qu'il fréquentait. Cameron, lui, a brunché avec sa grand-mère et sa mère, qui l'ont amené magasiner pour acheter un jeu vidéo par la suite. Le même soir, vers 7 heures, il y a un jeune homme qui fumait du pot avec ses amis sous le pont Galloping Goose, là, où on vous disait que tout le monde se tient, a trébuché sur des restes humains carbonisés. Donc, le dossier dentaire ont confirmé que c'était le corps de Kim. Le groupe des crimes graves de Vancouver et de la Gendarmerie royale du Canada ont dépêché une équipe d'enquête de plus de 40 agents sur l'affaire du meurtre pour résoudre le crime. Une fois l'enquête démarrée, les enquêteurs ont suivi de près la famille, les amis de Kim sur Facebook, notamment en créant une page commémorative publique en son honneur. On se souviendra à l'époque, en 2010, je me trompe pas, Facebook ne gérait pas non plus la mort sur les profils personnels. Les visiteurs ont commencé à échanger des indices et des théories sur qui aurait pu la tuer sur la page Facebook. Les enquêteurs ont surveillé vraiment de près cette page en y cueillant des témoins potentiels ainsi que sur d'autres pages de profils Facebook accessibles au public. Aucun mandat est nécessaire pour aller chercher l'information. Le caporal Lagan, qui était affecté au dossier, mentionne « Vous seriez étonné de voir combien de personnes n'ont pas un seul paramètre de vie privée là-dessus. »
Ah oui, hein?
Et ça, je suis pas surpris pour travailler dans le domaine. On le voit généralement, les gens... Ils se rendent pas compte des statuts publics qu'ils publient. Souvent, c'est anodin, mais quand même, ils n'ont pas la notion de visibilité par le monde extérieur et qui sont pas leurs amis sur Facebook, justement.
Oui, parce que les enquêteurs, pour eux, lorsque les membres de la famille créent des groupes de recherche, tout ça, pour eux, c'est une mine d'or d'une certaine façon, ils vont essayer de voir, OK, qui est-ce qui like les statuts, qui est-ce qui poste des photos. Donc, pour eux, c'est quand même assez intéressant d'observer le trafic autour de ces pages-là, parce qu'il y a même des chances que le criminel ou les meurtriers en question soient membres de ces pages-là. On l'a vu, c'est arrivé dans le passé que des tueurs ont participé aux recherches. Pour eux, c'est vraiment un outil très important d'enquête.
Ah oui, ils peuvent faire des liens, qui est ami avec qui, etc. Avec la mort de Kim qui flottait au-dessus de la ville, là, on s'entend, là, ça devait être the talk of the town, et les nouvelles locales qui en parlaient continuellement, Cruz est devenu de plus en plus paranoïaque par rapport aux traces et aux preuves qu'il pouvait laisser en ligne. Mais il ne pouvait pas résister vraiment à l'envie de partager son histoire avec quelqu'un là, en qui il avait vraiment confiance. Et justement, sa paranoïa l'a amené à ne pas vouloir utiliser MSN parce qu'il commençait à se douter qu'il était peut-être surveillé. Donc, il s'est dit qu'il allait utiliser les espaces de discussion de World of Warcraft. En fait, selon lui, il était beaucoup moins susceptible d'être épié par les autorités s'il utilisait ce canal-là de discussion. Le 23 mars, c'est-à-dire 5 jours après le meurtre de Kim, il a dit à sa petite amie de Halifax sur MSN qu'il avait quelque chose d'urgent à lui dire, mais qu'il voulait le faire via World of Warcraft. Une fois à l'intérieur de World of Warcraft, il a avoué le crime directement, là, textuellement. De retour sur MSN, il a envoyé des liens à son amie d'Halifax parce qu'elle n'était pas nécessairement au courant là, du dossier. Il a envoyé des liens, des reportages pour lui prouver ce qu'il disait pas. Les articles incriminaient pas Cruz encore, mais au moins pour lui prouver le crime en question. La fille a été sous le choc pendant un moment, mais elle a finalement répondu de manière dont il s'attendait. « Je serai toujours là pour toi, peu importe ce que tu fais », qu'elle a écrit pour lui. D'après ce que la petite amie d'Halifax a dit à la police, parce qu'elle a été interrogée par la suite, étant donné que la police a pu trouver cette conversation-là, Cameron est venu discuter sur World of Warcraft, ce qui a confirmé le récit de Cruz. « Qu'en est-il de sa famille et de ses amis et de toutes ces vies que tu as ruinées ?» a demandé la fille à Cameron, si on continue la discussion. « Je me sens pas mal pour eux. » Puis elle a répondu « Ne fais plus jamais ça. »« Je te le promets, » a répondu Cruz. « J'en ai pas envie. » Puis, dans un brusque changement de discussion, il s'est mis à jaser de jeux vidéo et qu'il aimerait ça jouer un jeu qui lui rappelait le bon vieux temps. Il lui mentionne qu'il a envie de jouer au nouveau, de jouer à nouveau à Pokémon. Il dit « Je suis nostalgique de Pokémon depuis des mois. » Donc, on voit qu'il cherche un peu un réconfort hein, quand on tombe dans la nostalgie. Souvent,
ouais,
c'est pour...
une façon d'éviter le sujet un peu.
Oui, oui, exactement. C'est du déni à 100%. Cruz, de son côté, continue à se montrer sporadiquement à l'école comme à l'habitude, mais il ne pouvait pas contenir sa rage longtemps. On s'entend, il devait garder ça pour lui à l'intérieur. Quand Samantha a entendu Cruz parler de Kim, elle lui a demandé d'arrêter parce que c'était trop douloureux pour elle. Je vous rappellerai que Samantha, c'est une très bonne amie de Kim. Soudainement, Cruz s'est levé et a commencé à crier « No one fucking cares », dit-il. « She's dead. Who gave a shit ?» Cameron et Cruz ont par la suite souvent discuté de l'enquête sur MSN directement sans trop se soucier. Il mentionnait « Depuis que nous avons tué cette chienne et ce n'était pas trop dur, nous devrions le faire à nouveau », qu'a écrit Cameron à Cruz le 25 mars. Cruz et Cameron ont été amenés en interrogatoire par la suite parce qu'ils faisaient partie de la liste des, pas nécessairement des suspects à cette époque-là, mais des gens de l'entourage qu'ils devaient interroger. Et les garçons ont admis avoir vu Kim le matin du jour de sa disparition, mais ont affirmé qu'elle les avait quittés tôt pour se rendre à l'école. Quand un policier a demandé à Cruz de quel type de personne pouvait commettre un tel acte, Cruz a dit « quelqu'un qui pense que ça vaut la peine de tuer quelqu'un ou quelqu'un qui a une rage à contenir là, son goût. » Plus les jours avançaient, plus la police disposait suffisamment de preuves pour obtenir un mandat, en fait l'autorisation judiciaire, pour surveiller et analyser les activités en ligne de Cruz et Cameron. On le sait, là, ils surveillaient tout ce qui se passait public sur Facebook sans mandat, mais il y avait besoin de plus pour aller chercher les preuves. Cruz et Cameron ont été mis sous étroite surveillance parce que la police commençait à avoir vraiment des doutes. Ils ont mis leur maison, leur cellulaire et même le gazebo dans le parc où ils avaient l'habitude de discuter sous écoute. Ça, je trouve ça intéressant quand même de la part des enquêteurs.
Avis à tous les jeunes qui se tiennent dans les gazebos.
Vous n'êtes pas à l'abri. Grâce à l'analyse des contenus des ordinateurs justement et des cellulaires des jeunes garçons, ils ont extrait même les recherches sur Google et Wikipédia et toutes les anciennes transcriptions de messages textes et de messages instantanés sur toutes les plateformes où ce qu'ils discutaient. Au total, écoutez ça, c'est fascinant. Au total, l'unité des crimes technologiques a amassé l'équivalent de 1,4 milliard de feuilles de papier si on avait imprimé toutes les preuves numériques sur les deux garçons qu'ils ont amassés. Il y a quand même plusieurs personnes. Il y était 40, là, on se le rappellera, qui ont épluché tout ça. Là, c'est un travail de moine.
Ouais, c'est assez fascinant. Le vendredi 18 juin maintenant, Cruz et Cameron ont été arrêtés officiellement pour le meurtre de Kim. Ils étaient à la fois extrêmement calmes et sombres, se souvient le caporal Lagan. Plutôt que de faire face à un procès et un jury, les deux ont plaidé coupables de meurtre au premier degré et d'indignité envers des restes humains et ont été condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Donc ça, c'est la loi, en fait, le règlement lorsque on est mineur, en fait. Le caporal Lagan s'est exprimé en disant « Comme parents, nous passons tellement de temps à mettre en garde nos enfants contre les étrangers en ligne, mais dans ce cas-ci, c'était des gens qu'elle connaissait. Donc, on peut jamais vraiment être certain que nos enfants fréquentent des gens de confiance. Donc, ça fait assez peur aux parents de Kim et aux parents de cette école-là. Là. Assez troublant. Un peu plus d'un an après le meurtre, dans la salle de tribunal qui était bondée et bruyante à Victoria pour l'audience qui déterminerait si Cameron et Cruz allaient purger leur peine, le juge est sur le point de déterminer si les garçons devaient être transférés dans des pénitenciers pour adultes. Donc ce fut un peu, comment dire, le point de débat de ce procès-ci là.
Oui, parce que à la base maintenant ils sont majeurs, mais quand le crime a été commis, il y avait 16 et 17 ans les deux jeunes.
Les rapports psychologiques étaient accablants. Ils suggéraient une forte probabilité de récidive. Cruz était un sadique sexuel d'un genre le plus rare, apparemment, selon les rapports. Cameron, lui, a été amené dans la salle d'audience en premier. Il portait une chemise blanche et un pantalon noir et avait laissé ses favoris s'épaisser jusqu'à sa mâchoire, donc des gros favoris pour Cameron. Les chaînes s'agitaient autour de ses chevilles. Depuis son incarcération, il était resté isolé et déprimé, en proie à des cauchemars répétitifs du crime, selon son témoignage. Il avait essayé d'effacer ses souvenirs. Il dit que son cerveau est comme la poubelle de recyclage d'un ordinateur, on a noté dans un rapport de police. L'information a été traitée et puis elle est partie, comme il expliquait. Alors qu'il apparaissait dans un box des accusés derrière un verre pare-balles, donc une grosse vitre épaisse, son avocat de la défense bavardait avec lui à propos des séries éliminatoires de la LNH, donc de la Ligue nationale de hockey. Donc ça montre un peu dans quel esprit le jeune était, là, donc quelqu'un d'assez assez narcissique.
Détaché, sans empathie.
Complètement détaché. Il semble être dans le déni complet face au meurtre, comme il l'explique en disant que son cerveau est un peu comme la poubelle de recyclage d'un ordinateur. On voit qu'ils se sont tellement convaincus eux-mêmes que c'est banal ce qui est arrivé, qu'ils le croient. L'audience a été très rapide. Les deux garçons seront transférés à une prison pour adultes, c'est ce qu'on en a déterminé. Des installations où, selon le procureur, un programme plus complet de traitement des délinquants sexuels y est offert, y compris la castration chimique. Mais c'est quand même une méthode qui est très, très controversée, là, ça, au Canada. Là.
Oui.
Les résidents de Langford sont encore ébranlés que de tels tueurs puissent, en quelque sorte, grandir dans une si petite communauté et passer inaperçus. Souvent, c'est troublant que lorsque ces histoires-là arrivent dans des petites communautés. Dans une grande ville, des fois, on va passer à la prochaine nouvelle 15 minutes plus tard, mais dans les petites villes, c'est souvent la grosse nouvelle de l'année.
Ben, les gens se connaissent plus dans les grandes villes, ce qui rend la chose un peu plus banale, malgré qu'il y en a plus. Je pense que veut pas, on devient un peu plus éloigné. Là. T'sais, telle personne, c'est pas dans notre famille ou proche. Dans les plus petits villages, j'ai l'impression que les gens, veut pas, les liens sont plus proches, les gens se connaissent plus,
oui.
Ce qui doit un petit peu augmenter la peine et être troublé par tout ça. Là.
L'école secondaire pacifique à laquelle Kim et ses tueurs ont assisté a introduit un protocole à propos de menaces de violence à la suite du crime. Donc, cela permet à la police, à l'école et aux organismes de services sociaux de partager l'information sur les élèves qui sont perçus comme une menace. Les amis de Kim cherchaient dans leurs souvenirs s'ils avaient des indices qui auraient pu supposer qu'un tel drame se produise. Parce qu'évidemment, après un tel drame, les gens cherchent réponses.
Tu te sens coupable. Hein?
Oui. Et ils n'étaient pas seuls. Au moins 4 filles se sont adressées à un responsable scolaire pour leur parler de rapports sexuels violents perpétrés par Cameron. Et même dans un des cas, là, ce serait même un viol qui aurait été commis au cours des derniers mois. Donc vraiment, il y avait une certaine loi du silence auprès des étudiantes. Oui. De cette école-là, et Cameron aurait même fait d'autres victimes, apparemment. Au niveau de la sentence maintenant, parce que heureusement, ces deux jeunes tueurs ont eu des sentences, donc ont été punis pour leurs crimes, et ils le sont toujours. Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération là, avant 10 ans, ces deux adolescents-là qui étaient à ce moment-là âgés de 17 et 18 ans là, au moment du jugement. En octobre 2010, ils ont reconnu leur culpabilité, donc ils ont plaidé coupable pour le meurtre au premier degré de Kimberly Proctor. Donc c'est un peu comme ça que cette saga se termine. Les deux jeunes vont être reconnus coupables. Par contre, c'est pas un traitement qui est 100% le même que pour un adulte, par exemple.
Non, ils réduisent un petit peu, comme on disait tout à l'heure, la peine, elle est réduite. Pas la peine en tant que telle, mais la possibilité de sortir après 10 ans. De plus, Cameron, qui était un petit peu, le moins fucké des deux, là, si on pourrait dire, là, c'est moins l'initiateur, lui, il a été transféré, en fait, dans une autre prison à une sécurité médium, en fait, où ce qui va avoir d'autres programmes de réhabilitation. Mais ça a été comme déclaré en 2012 environ, fin 2011, et ça avait vraiment fait une tollée aussi par rapport à la famille. Pour eux, ils ne comprennent pas que lui, c'est sûr, là, mais il reste tout de même en prison. Là, donc, mais je peux comprendre pour la famille qu'on veut pas, que le criminel qui a tué notre fille soit transféré. Là. C'est comme si ça minimisait un petit peu le drame. C'est ça, je pense, qui doit déranger vraiment les gens.
Donc, une histoire vraiment, vraiment tragique, Seb,
vraiment, oui.
qui touche à la sextorsion, qui touche justement au rapport que nos adolescents ont avec la technologie, mais aussi comment ils peuvent facilement se faire manipuler par des mauvaises personnes. Dans ce cas-ci, on peut pas blâmer la technologie elle-même parce que la technologie a aidé aussi à trouver ces coupables-là. Mais par contre, Je sais pas s'il y a une leçon à en tirer, mais pour moi, il semble que Kim, d'une certaine façon, soit tombé entre les mains des mauvaises personnes au mauvais moment. Je vois pas comment ça aurait été très difficile à prévenir là, un geste comme ça. Là.
Ben en fait, oui, exact. T'as vraiment raison par rapport à Kim. Mais la prévention qui aurait dû avoir eu lieu, c'est à l'école, tous les gestes qu'il y a eu, même les filles qui ont pas dénoncé à l'époque. Mais on le sait, on est dans un ère de dénonciation. Il y a pas si longtemps que ça.
Mm-hmm.
C'est encore, ça l'est encore.
C'est pas
difficile.
Pour rien qu'on vous en parle d'ailleurs maintenant.
Oui,
c'est
oui, ça fait partie.
On est un peu dans cette ère-là, donc on voulait quand même amener un cas qui incite les filles à dénoncer, oui. Si possible.
Oui, parce que ça aurait pu justement empêcher ce crime-là d'arriver, parce que on comprend les femmes, puis ce qui est arrivé dernièrement, en tout cas dans notre région et tout ça, a amené beaucoup a changé le comportement des femmes, mais même en Amérique du Nord, en fait, mm-hmm. avec toute l'histoire de Weinstein, à dénoncer les abus sexuels tôt pour éviter de faire d'autres victimes pour que ces abuseurs-là soient tout de suite arrêtés.
Un des héritages, en fait, de l'histoire de Kimberly Proctor, c'est un projet de loi, en fait, qui s'appelle la Kimberly Law, qui est en cours. En fait, vous pouvez aller sur le site web, là, au kimberlyslaw.com, et il y a une section pour le Québec, si vous voulez le remplir une pétition pour faire passer cette voie-là. En fait, c'est une réforme de la loi sur les jeunes contrevenants là, qu'on connaît ici au Québec. Et puis, ça a pour but justement de prévenir les cas de cyber-intimidation et de sextorsion, même à un plus jeune âge. Donc, à essayer de trouver une façon de prévenir et de repérer ces gens-là, ces possibles prédateurs-là. Et je vous en parle rapidement. En fait, c'est quelques lignes, mais on parlait tout à l'heure du protocole de traitement des menaces là, qui avait été intégré dans l'école de Kimberly. Eh bien, ce projet de loi-là voudrait standardiser ce protocole-là afin que ce soit présent dans toutes les écoles. Et il y a aussi, évidemment, traiter les symptômes de comportement dangereux le plus tôt possible, comme c'est le cas des jeunes qui affichent leur douleur et leur état d'âme sur les réseaux sociaux. On le sait, il y a aussi une certaine tendance, la tristesse est à la mode sur les réseaux sociaux. Il y a des styles de musique aussi actuellement qui prônent un peu ça, là, la dépression, tout ça. Même sur Instagram, si vous allez dans les raccoins de certains endroits sur Instagram, vous allez vous rendre compte que c'est très déprimé. Donc, est-ce qu'il y a une façon de repérer ça? Il y a aussi la responsabilité parentale, et ça c'est un peu plus concret si on veut. Cette loi-là propose que un peu comme lors de dommages physiques ou de dommages de propriété, ce serait de tenir les parents responsables des crimes de leurs ados en imposant une amende là, allant jusqu'à 25 000 $ pour dédommager les familles. Donc ça c'est quand même les autres de se prononcer là-dessus c'est quand même assez drastique. Évidemment, on demande pas aux parents d'aller en prison, là, mais ils pourraient avoir une certaine forme de dédommagement. Bref, c'est dans les points proposés. Au point 4, on a que le tribunal pour adultes pour les crimes graves, en fait, c'est d'avoir un tribunal automatiquement pour adultes pour les crimes graves qui sont commis lorsqu'on a 16 ans et plus.
100% d'accord avec ça.
On a aussi la diffusion des noms des jeunes lorsqu'ils plaident coupables. Donc, c'est un registre public des jeunes délinquants lorsqu'ils plaident coupables. C'est d'exposer leur nom sur une liste.
Et aussi au niveau, parce que quand ils sont jeunes, quand il y a le procès, il y a un interdit de divulgation des noms. Et même durant le procès au début, il y avait pas, les noms étaient jamais sortis de Cruz et Cameron. Et justement, il a fallu que le juge l'autorise de lever à cause qu'il était mineur. Mm. Et là, dans ce cas-là, ça, justement, un peu que le fait que quand t'as 16 ans, t'as fait un crime grave, c'est automatique aux adultes, mais ça serait automatique aussi de lever l'interdiction de publication des noms quand c'est des mineurs.
Oui. Aussi, un autre point, on l'a mentionné rapidement tout à l'heure, c'est de faire en sorte qu'un jeune qui est traité comme adulte au tribunal ait une sentence d'adulte. Mmh. Souvent, l'exemple donné, c'est le 25 ans pour la prison à vie pour adulte. La prison à vie pour un jeune délinquant, c'est 10 ans, donc c'est un peu différent. Donc, c'est comment dire, d'extensionner là, la peine pour ces jeunes-là. Et un dernier point, en fait, c'est que les jeunes qui sont détenus par intérim, donc en attendant leur procès, ils devraient être isolés entre eux. Donc, pour ne pas traumatiser les autres jeunes, étant donné les détails de leur crime. Parce qu'on s'entend que ces jeunes-là devaient être détenus pendant toutes les attentes avec des jeunes qui ont fait des crimes beaucoup plus mineurs. Donc, dans ce cas-ci, on le sait, ça a été très difficile, même pour les enquêteurs, de supporter tout ça. Donc, c'est de les maintenir isolés, de sorte que, d'une certaine façon, ils vont pas traumatiser les gens autour d'eux.
Pour conclure, ça m'a fait vraiment plaisir d'amener cette histoire-là à Distorsion, Émile, parce que c'est vraiment quelque chose que je trouvais qui rejoignait de manière intégrale notre ligne éditoriale de crimes, d'histoires étranges et de numérique. Et le fait que le numérique a aidé à résoudre l'enquête et de trouver les coupables. Et ces histoires-là, le seul bon côté, justement, c'est l'éducation qu'on peut faire par la suite, comme on a dit, là, qu'il va avoir au moins les traces de la mort de Kimberly qui vont sûrement servir à quelque chose au niveau législatif et éviter que d'autres drames si cruels peuvent se produire.
Absolument, Seb. Merci de cette bonne idée de sujet. Aussi, on était plus soft la semaine dernière avec Polybius, ouais, là, donc on voulait retomber un peu dans le true crime, de faire un virage 180 degrés. Donc, on vous revient encore une fois la semaine prochaine avec un nouveau sujet. J'ai bien hâte de vous en parler. Nous, on a une petite idée, mais on ne sait jamais tant que c'est pas en ligne. Et puis, ben, si vous voulez réagir à ça, si vous voulez discuter autour du cas de Kim Proctor ou de tout cas de sextorsion ou de tout autre sujet, vous pouvez le faire sur notre groupe Facebook. On est facile à trouver là, sur Facebook, Distorsion Podcast. Notre groupe de discussion est assez en évidence sur la page. Vous nous faites une demande, on accepte tout le monde.
Oh yeah!
Sinon, facile à trouver sur Instagram, Twitter, Facebook, distorsionpodcast.com. On est partout. Et puis, je crois que ça fait le tour de la question, mon Seb.
Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous, Émile?
Ne croyez pas tout ce que vous lisez dans World of Warcraft.
Oh non.